Radio Barque 35e pour cette deuxième partie. Michel, comme nous l'avions annoncé, tu poses la question sur les casseurs. Faut-il les casser ?
Oui, je termine d'ailleurs mon billet sur le blog en disant oui, il faut arrêter, quoi, hein, il faut casser tout ça. Car la situation quand même devient sinon dramatique, en tout cas très inquiétante.
Elle devient ou elle l'est déjà depuis ?
Elle devient de plus en plus inquiétante parce qu'il s'est passé quand même, notamment dans notre région, je vais y venir, hein, des faits qui certes ont un caractère symbolique et que symbolique, mais qui, comme tu le sais, comme nos auditeurs doivent le savoir aussi, en politique, les symboles, ça compte beaucoup. Hein, et ça met en mouvement des esprits, et quelquefois des esprits qui vont jusqu'aux actes.
Oui, actes très souvent d'ailleurs, de toute façon, les paroles précèdent les actes. Surtout les paroles extrêmes, d'ailleurs.
J'avais fait ce billet parce que au lendemain d'une dernière manifestation qui, sur la place d'Enfer Chaud à Paris, s'était terminée par des heurts violents, et notamment des heurts qui avaient opposé, entre autres, hein, le service d'ordre de la CGT et de FO qui était là, du coup, bien casqué et bien armé, eux aussi, et les casseurs professionnels, en tout cas professionnels au sens où ils appartiennent à des groupes ultra-radicaux de gauche,
qui
ont une volonté délibérée de casser et de tout faire surtout pour créer un incident qui pourrait se traduire par, malheureusement, des blessures graves du côté manifestant ou du côté des casseurs, et donc dans leur esprit mobiliser et souder autour d'eux, en fait, la population contre la loi dite travail. Donc là, effectivement, ce jour-là d'Enfer au Chaud, les organisations syndicales se sont constituées de manière telle que leur service d'ordre était bien préparé pour s'opposer et éviter que les casseurs ne cassent la manif. Et d'ailleurs, ce même service d'ordre de la CGT et de FO était traité par les casseurs en question de service d'ordre collabo, SO collabo, SO collabo, hein, etc. Donc il y a eu quelques petites manifestations. Entre parenthèses, ça m'a rappelé une époque où j'étais beaucoup plus jeune et où, pour avoir participé à quelques services d'ordre de cette nature, on avait en face des casseurs de l'époque qui, des amis de Dre, en fait, et de Cambadélis aujourd'hui,
c'est-à-dire
les mouvements de jeunesse de certains partis trotskistes qui s'appelaient l'OCI, et qui cassaient aussi à l'époque, hein, et qui cassaient du service d'ordre. Mais bon, passons sur cette petite période en question. Ouais. Ils sont devenus sénateurs pour l'un et l'autre qui est président-directeur général, si je puis dire, du PS. Comme quoi, bon, tout mène à tout.
Oui.
Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, on a vu des affiches d'une certaine organisation syndicale de la CGT, je ne dis pas toute la CGT, mais en tout cas d'une organisation de la CGT, clairement, voilà, bon, dénoncer les violences policières avec un graphisme épouvantable.
Ouais.
Que nos auditeurs certainement ont pu lire, enfin, pu voir dans la presse ou à la télévision. Ensuite, bon, ça a été un collectif qui s'appelle Urgence Notre Police Assassine, qui dernièrement à Paris, hein, ont organisé une contre-manifestation contre la manifestation des policiers eux-mêmes qui n'en pouvant plus, en fait, de cette haine anti-flic et de ce qui se passait effectivement dans les matifs, manifester. Donc il y a eu des contre-manifestants. Là aussi, il y a eu de la casse, avec le mot d'ordre Urgence Notre Police Assassine. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu à la télévision, hein, entre autres, hein, comme image, on a vu un groupe de casseurs prendre d'assaut, en fait, une voiture de police.
L'incendier, menacer,
pour ne pas dire. Heureusement que les agents de police en question ont gardé leur sang-froid. Balancer, en fait, je ne sais, un fumigène dans la voiture. S'il y avait eu quelqu'un à l'intérieur, bon, c'était quasiment un massacre. Et dans notre région, ça se décline comment, en fait, Jean-Claude? Ce genre de comportement moins violent, mais tout aussi symboliquement fort, je termine en termes de violence. Ben, ça traduit par quoi? Ça a commencé par la violation de la permanence parlementaire de Mme Fabre, qui a été, bon, on a escaladé, on est passé dans, dans sa permanence. Quelques jours après, on a piqué
comme si c'était
devant.
Un geste anodin.
C'est normal,
voilà, comme si c'était
voilà,
totalement anodin.
Totalement démocratique, bien sûr. Ensuite, du côté de Toulouse, on a muré, carrément muré, en fait, hein, avec des quérons, en fait, du ciment. On a muré la permanence de notre député, dont j'ai perdu le nom, en fait, socialiste, en espérant qu'en le murant, lui aussi, bon, on le pousserait à voter contre la loi Mpoumri, comme si il n'avait pas entendu à la fois Valls et surtout le président de la République dire « cette loi passera ». Quel qu'en soit le moyen. Hein. Et puis, on a vu, alors là, tout à fait récemment, je crois que c'était, nous sommes aujourd'hui samedi, c'était jeudi, hein, à Albi. Alors ça m'a fait sauter au plafond. On a vu Albi à la fin d'une manifestation de bon père de famille. Là, il n'y a pas de casseurs, hein, hein, avec des drapeaux rouges, des brassards et des... chassable au nom de
grande centrale syndicale. Presque bourgeois, comme père
bourgeoise,
oui, presque bourgeois.
Lui rassemblé fait, sur la place centrale d'Albi. Ils avaient planté au milieu de la place, en effigie, les grandes photos en pied de Hollande, de trois de ses ministres et du président du MEDEF. Et qu'est-ce que faisaient ces gens-là autour? Ben, ils assistaient fait, à un bûcher, c'est-à-dire qu'on a mis le feu. Hein, événement qui rappelle à ceux qui ont quelques restes d'histoire, en fait, à l'esprit.
La force du symbole.
Certaines manifestations dans l'Allemagne nazie de l'époque où on brûlait des livres. Là, on brûle effectivement en effigie des portraits en pied de nos hommes politiques. On peut passer ce qu'on voudra. Hein, de la manière
dont le couple exécutif républicain,
on peut penser ce qu'on voudra de la manière dont le couple exécutif et sa majorité aujourd'hui conduisent le pays. On peut penser ce qu'on voudra de la loi El Khomri. On peut penser encore une fois ce qu'on voudra de la manière dont elle a été passée, si je puis dire, par la procédure de 49-3 à l'Assemblée. On ne peut pas continuer fait, à tenir ce genre fait, de propos, de comportements à l'évidence, mais aussi de manifestations symboliques comme celle que je viens de rapporter en dernier lieu, et qui, je le dis si fortement, sont des manifestations qui légitiment, hein, même s'ils ne s'en rendent pas compte, j'ose croire qu'ils ne s'en rendent pas compte, ce sont des pratiques symboliques qui légitiment toutes les violences, y compris les plus violentes, notamment celles qui sont traduites par l'incendie d'une voiture de police.
Bien sûr, on ouvre une boîte de Pandore, là, et dont on se demande si à un moment on pourra la refermer.
Donc, casser les casseurs, comme je l'avais titré dans mon blog, Jean-Claude, ça passe aussi par casser ce genre de comportement et de pratiques, y compris symboliques, de nos amis syndicalistes quand ils terminent une manifestation pacifique.
Marie Zarditi, vous avez un regard là-dessus, puisque vous êtes quand même restée une grande observatrice de la vie politique.
Oui, enfin bon, je serai pas évidemment tout à fait sur la même position. Moi, on est absolument pacifiste, donc je pense qu'effectivement, il faut pas casser, faut pas aller à la violence physique, mais il y a un moment donné les symboles. Les symboles, ils disent quelque chose qui est malgré tout pas de la violence physique. Si vous voulez, dans la même zone et non pas très loin, moi j'ai quand même dans la tête un jeune homme qui s'appelait Rémi Fraisse, qui était un naturaliste qui travaillait sur une plante bien pas très connue, mais une espèce protégée de renoncule, qui était tout sauf violent, qui un jour était voir ce qui se passait. Et pas de peau, c'est lui qui a pris la balle en rafale dans la tête, quoi. À un moment donné, donc si vous voulez, il y a quand même ça dans les arrière-plans de mémoire, c'est-à-dire qu'il y a. Alors moi, je pense que la police est dans une situation très très difficile en ce moment, que ça fait des mois avec l'état d'urgence qu'on la met sous une pression absolument folle, qu'il y en a qui font le pied de grue pour protéger qui. Alors il y en a, ça se justifie. Quand on protège Charlie Hebdo aujourd'hui, c'est un peu obligé, quoi. Si on l'avait un peu mieux protégé avant. Mais en même temps, il y a des vrais problèmes et rien n'est aussi simple que de prendre directement parti d'un côté ou de l'autre. Pour moi.
Alors pour terminer, Michel, tu nous avais annoncé tout à l'heure un sujet quand même plus pacifique. Ce sont les voitures, les bagnoles, comme tu dis, sur les barques, même si ça te rebrousse le poil.
Oui, bien sûr, parce que. Déjà l'année dernière, j'avais manifesté mon incompréhension et mon et mon ironie un peu très critique sur le sujet, mais quand même, le grand chapiteau, j'y reviens, hein, le grand chapiteau du livre, là, du centre du livre La Jeunesse, n'était pas encore terminé, Jean-Claude, que déjà, en fait, sur les grands boulevards de Narbonne, un grand boulevard avec des guillemets, hein, on n'est pas à Paris quand même, hein, étaient installées des banderoles affreuses, hein, qui annonçaient la tenue du salon ou du véhicule d'occasion. Hein, le deuxième, hein,
oui,
il était précisé,
deuxième, quand même, oui.
Hein, du jeudi 19 au dimanche 22, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours, hein, en plein centre-ville, hein, et sur les barques de cité et les barques de bourg. Et, alors, et ce hein, entre ce grand salon du livre qui fut un succès et la manifestation qui va suivre, qui est une magnifique d'ailleurs manifestation culturelle, à savoir Sportfolio, hein, qui sera répartie, comme l'année dernière, je crois, en divers lieux.
Bon, entre les deux, c'est une manifestation économique, répondra la mairie.
4 jours d'occupation du cœur patrimonial de Narbonne, qui, je le rappelle au passage, est une ville labellisée ville d'art et d'histoire, hein, et qui tient ce label justement de par les caractéristiques patrimoniales de son cœur de ville, en fait. Hein. S'il n'y avait pas l'ensemble monumental, les barques, en fait, et autres, il n'y aurait pas de label Narbonne, ville d'art et d'histoire. Hein.
Ouais.
Donc, quatre jours de bagnoles, hein, avec de leurs marchands, coincés entre deux séquences culturelles de grande qualité que je viens de rapporter rapidement. Hein. Alors voilà, c'est ce que l'on doit certainement considérer au Palais comme la marque d'une très grande cohérence intellectuelle et politique.
Oui. Hein. Alors, puisque tu as prononcé le mot de politique, fond de l'histoire, on le connaît quand même.
Alors, c'est totalement incohérent. Alors, c'est une stratégie qui, à l'évidence, bon, quand on veut parler de valorisation du cœur de ville, c'est une stratégie culturelle quoi, et politique qui devrait être partagée avec le Grand Narbonne. Hein, le Grand Narbonne qui est gestionnaire de grands équipements culturels.
Oui,
la médiathèque d'un côté, le théâtre de l'autre, en fait, etc. Hein. Mais à l'évidence, là, bon... On sait très bien dans quelle situation on est. C'est la guéguerre permanente. Hein,
voilà. Le parc des expositions est en géré par le Grand
Narbonne. Le maire de Narbonne dit tiens, je m'en mets la kikine un peu. Bon, à Jacques Bascou, le président de Narbonne, hein, je vais même lui piquer des clients du parc des expositions, je m'en vais les mettre sous les barques. D'ailleurs, on revient à la situation antérieure à la création par Hubert Moulier lui-même du parc, destiné effectivement à ce genre de manifestation. Alors, résultat, bon, on n'a aucune ligne directrice peut-être dans cette aujourd'hui, en matière de valorisation du patrimoine du cœur de ville, hein, on fait des animations comme ça, bon, un peu au hasard, hein, en voulant enquiquiner tel ou tel. Il suffit que quelqu'un maintenant aille voir l'adjoint au maire en charge de ces questions-là ou l'adjoint au maire du commerce pour dire tiens, cher ami, j'ai une manifestation, et puis pourquoi pas une foire aux bestiaux, celle des ânes par exemple, et des mulets, et puis demain on la mettra là, quoi. Donc, c'est d'une stupidité en fait, totale. Donc je suis très en colère sur ce sujet-là, par manque de vision, je veux dire, politique, en fait, et par absence de stratégie culturelle valorisant notre patrimoine de cœur de ville. Et je tenais encore une fois à le redire, parce que vraiment, ça commence à bien faire, quoi, ces petites guéguerres, en fait, et ces petites manières de faire dans un domaine aussi important pour la promotion de la ville de Narbonne.
Mais avant de faire une petite pause, je crains, Michel, que tu ne doives le supporter quelques années encore.
Oui, hélas, oui.
Ça, c'est le regard réaliste. On marque une deuxième pause.